Kiosque Magazine.
Jeudi 16 octobre, un petit jeudi humide et tristounet, peut-être à la lumière des textes qu'on va vous lire d'ailleurs, parce que c'est en économie, voyez-vous, rien n'est jamais très, très gai. Avec vous pour la prochaine heure, Éric de Belval et François Brodeur, accompagnés derrière la vitre par Kamal Salifou, qui met en onde cette émission et fait les choix musicaux. Éric, bonjour.
Bonjour François.
Que nous avez-vous sélectionné aujourd'hui?
Eh bien, on va parler du pétrole pour commencer, qui est à la baisse. Je ne sais pas si vous avez fait le plein durant le long dernier week-end de l'Action de grâce, mais vous avez pu constater que l'essence était moins chère. Eh bien, en effet, pour la première fois, presque deux ans, le prix du baril de brut est passé au-dessous des 90 dollars. Étonnant, alors que bon nombre de prédictions dans la suite des tensions au Moyen-Orient prévoyaient le contraire. Eh bien, il y a une corrélation directe entre cette baisse et la hausse du dollar. Ensuite, on parlera du FMI. On lui reproche beaucoup d'être trop éloigné de ce qu'on appelle l'économie réelle. Je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais enfin, ça, c'est un concept qui s'emploie. D'être une assemblée technocrate, en gros. Pourtant, ces analyses économiques ou ces prises de position sont souvent à la fois utiles à des prises de conscience ou à des appels à la communauté internationale. Récemment, Christine Lagarde, dans une déclaration solennelle, a fait de l'accroissement des inégalités l'un des problèmes majeurs de notre époque. C'est non seulement un triste constat, mais aussi une urgence qui appellerait des réactions et des mesures. Et puis, pour finir, comment fonder une décision sur de bons critères économiques? C'est ce qu'on appelle parfois les données probantes. Alors, il en existe une définition, un ensemble d'informations soumis à un large processus d'examen critique. On voit tout de suite les limites de l'exercice dans son énoncé même. Au fond, ce qui est difficile, c'est de répondre de façon satisfaisante à une question récurrente. Pourquoi cette décision?
Pour ma part, je suis un news addict. J'avais préparé hier une émission, voyez-vous, et j'ai reçu le devoir d'aujourd'hui. J'ai donc changé la plupart de mes sujets. Je vous les donne tout de suite. Québec qui sabre dans les subventions salariales accordées aux organismes communautaires, en fait aux organismes d'économie sociale. C'est une décision qui risque de toucher les clientèles les plus défavorisées, notamment les clientèles handicapées. On va également parler de coupures dans le budget fédéral et du coût réel pour la population. Et finalement, je parle de les limites... D'un drôle de comparatif, tiens. Il semblerait que pour les Français, le Québec et le Canada soient un modèle économique que la France pourrait suivre. La France qui est légèrement désemparée sur le plan social et économique ces temps-ci. Et on vient ici pour voir ce qu'on pourrait emprunter. Et il y a un chercheur ici qui dit, ben voyons donc, c'est complètement ridicule. On en parle tout ça dans quelques instants. Le FMI, cette semaine, a fait la manchette, notamment à cause de la réforme de sa gouvernance. On a vu que le Congrès américain continue à bloquer toute tentative de donner une place plus significative aux économies émergentes, qui sont pourtant de plus en plus importantes. À partir de cette année, d'ailleurs, le produit intérieur brut de la Chine va dépasser celui des Américains. C'est la première fois depuis, je pense, un siècle que ça arrive. Ça pose tout plein de bonnes questions, mais c'est pas de ça que vous allez nous parler.
Non, cependant, ce dont on va parler, c'est un peu le corollaire de ce que vous venez de dire. Que vaut la croissance quand elle n'est pas équitablement partagée? Et pire, quel sens a l'augmentation de la richesse globale quand elle s'accompagne d'un accroissement de ces inégalités? Eh bien, le FMI s'en est inquiété, à juste titre, et ça a inspiré à Éric Desrosiers un article dans Le Devoir qui s'appelle « D'autres visages du problème des inégalités ». Ça a été publié le 11 octobre. L'accroissement des inégalités est devenu l'un des problèmes économiques de l'heure et plus on creuse la question, plus on lui découvre des facettes parfois insoupçonnées. Personne n'a été étonné vendredi d'entendre la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, dans son discours d'ouverture de l'Assemblée annuelle de son institution, faire de l'accroissement des inégalités de revenus depuis 30 ans l'un des grands problèmes auxquels est aujourd'hui confrontée l'économie mondiale. Après des années à ne pas tenir compte, puis à sous-estimer l'ampleur et les conséquences du phénomène, de plus en plus d'experts et de décideurs reconnaissent désormais son importance et s'y intéressent. On souligne souvent, par exemple, que si les inégalités de revenus entre les individus ont été en hausse dans 7 pays sur 10 depuis les années 80, les inégalités entre pays riches et pays pauvres ont généralement diminué au même moment à la faveur notamment de l'extraordinaire ascension des économies émergentes comme la Chine. Or, l'OCDE montrait dans un rapport lundi que les écarts de niveau de vie à l'intérieur des pays avancés ne font pas que se creuser entre les individus, mais aussi entre les différentes villes et régions qui composent ces pays. C'est par exemple en Espagne et en Italie que les écarts régionaux en matière de chômage sont les plus élevés et en Australie en matière de revenus des ménages. Le Canada ne fait pas bonne figure dans ce classement, avec d'un côté l'Alberta et sa croissance économique par habitant de 7,1% et un taux de chômage de seulement 4,6% en 2010, et de l'autre côté le Nunavut et sa croissance anémique de 1,2% et un taux de chômage de 15%. On considère généralement que l'État-providence assure une meilleure redistribution de la richesse au Québec que dans le reste du Canada. Peut-être que ça sera confirmé par l'article que vous évoquiez tout à l'heure, on verra. Une étude de l'Institut de la statistique du Québec est venue confirmer cette impression mardi, avec des nuances toutefois. Portant son regard sur les 35 dernières années, l'ISQ constate en effet que les inégalités de revenus disponibles y demeurent plus faibles qu'ailleurs au pays, grâce notamment à une action plus marquée de l'impôt et des transferts. On observe aussi cependant que ce contrepoids aux forces du marché de l'État va en s'affaiblissant depuis la fin des années 90, et ce, particulièrement au Québec. Dans l'étude de l'ISQ, on dit que le type de ménage, personne seule, couple sans enfant, avec enfant, famille monoparentale, etc., et le niveau de scolarité sont des facteurs deux ou trois fois plus déterminants en matière d'inégalité que l'âge ou le sexe. Ces deux derniers facteurs n'en sont pas moins fort intéressants. Dans une étude dévoilée le mois dernier, le Conference Board nous révélait que le retard des jeunes travailleurs canadiens sur leurs aînés ne cesse de se creuser en matière de revenus et qu'ils pourraient bien devenir la première génération de l'histoire à finir moins nantis que leurs parents. Vous nous aviez lu quelque chose sur ce sujet récemment. Il y a 30 ans, les travailleurs de 50 à 54 ans gagnaient par exemple 47% de plus que ceux de 25 à 29 ans après impôt. Cette prime est rendue à 64% aujourd'hui. L'augmentation de l'écart est encore plus prononcée lorsque ces travailleurs sont en couple. Ce dernier phénomène s'explique entre autres par le fait que l'une des grandes inégalités économiques, celle entre les hommes et les femmes, continue de se réduire. Les travailleurs à temps plein au Québec gagnaient 50% de plus que leurs consoeurs il y a 35 ans, selon Statistique Canada. Ce privilège avait fondu de moitié en 2011. Ce rattrapage salarial des femmes devrait se poursuivre à la faveur notamment des transformations de l'économie. Des chercheurs américains du National Bureau of Economic Research, NBER, ont récemment observé en effet qu'elles se tirent généralement mieux de la disparition des emplois de classe moyenne répétitifs et routiniers qui sont emportés, entre autres, par les délocalisations, l'informatisation et l'automatisation. Plus qualifiés et plus cérébraux, les emplois routiniers traditionnellement occupés par les femmes les prédisposeraient mieux à se recaser dans des emplois mieux payés, alors qu'une plus forte proportion d'hommes n'ont d'autre choix que de se rabattre sur des emplois peu qualifiés et moins bien rémunérés. Toutes sortes d'autres facteurs peuvent expliquer l'accroissement des écarts de revenus entre les travailleurs. Une récente étude du NBER, là que je viens de citer, est par exemple arrivée à une étrange conclusion. Moins de 40% de ce phénomène pourrait être attribué à l'explosion du salaire des patrons, à la disparition des emplois de classe moyenne et autres explications courantes. Le problème viendrait plutôt principalement de la différence grandissante de salaire entre entreprises de même secteur. Certaines compagnies payeraient mieux leur personnel, du patron aux modestes employés, que d'autres, en parfaite contradiction de la théorie économique. Nos chercheurs ne s'expliquent pas encore ce phénomène. Les plus faibles salaires pourraient être, entre autres, liés à un plus grand recours à la sous-traitance et aux travailleurs autonomes. Mais on ne le sait pas encore. D'autres recherches seront nécessaires pour éclaircir cela et tout le reste. Moi, je trouve que cet article est un pavé lancé dans le jardin de la libéralisation. On a quand même besoin, à certains moments, d'un peu d'ordre. Dire que c'est très, très bien de se sentir très libre, de monter tout ce qu'on veut. Mais si à un moment, quelqu'un ne vient pas vous dire de l'extérieur, faudra peut-être faire attention et qu'il y ait un minimum de cohérence, ça serait pas mal, quoi.
Ça nous donne Amazon et ses salaires ridicules dans un secteur où les gens parvenaient à gagner leur vie jusqu'à maintenant. Des inégalités, on va passer à ce qui est encore plus inégal. Finalement, je suis désolé, je réalise que je nous cale tous. J'avais prévu vous parler ce matin de l'égalité sexuelle au sein des conseils d'administration pour vous faire état d'une bonne nouvelle. En fait, les autorités des marchés financiers du Canada, en fait, 7 des 10 autorités, se sont entendues pour mettre en place un système par lequel toutes les sociétés cotées en bourse vont devoir adopter d'abord et indiquer ensuite quels sont leurs objectifs en matière d'accession à l'égalité sexuelle au sein de leur conseil d'administration, oui, mais aussi au sein de leur équipe dirigeante. Tout ça, évidemment, dans le but de les rendre éventuellement imputables. C'était une bonne nouvelle. Voilà, j'en ai fait état rapidement. J'aurais aimé vous en parler plus longtemps. Non, ce dont je vais vous parler, en fait, c'est d'une... d'une décision du gouvernement du Québec qui a été rendue probablement hier, puisque c'est ce matin qu'Isabelle Paré et Sarah Champagne en faisaient état dans Le Devoir. Moins d'aide à l'emploi pour les plus démunis. Québec sabre les subventions salariales accordées aux entreprises d'économie sociale. Le gouvernement Couillard coupe à nouveau l'herbe sous le pied aux personnes les plus vulnérables en sabrant les subventions salariales accordées aux entreprises d'économie sociale et en gelant les enveloppes dédiées à l'intégration au travail des personnes handicapées. À la lumière d'informations dévoilées mercredi par Québec solidaire, des dizaines d'entreprises d'économie sociale, d'organismes communautaires et culturels perdront l'équivalent de centaines de milliers de dollars en subventions salariales, 600 000 $ à Montréal seulement. Cette perte a déjà forcé plusieurs d'entre eux à mettre à pied des employés vulnérables embauchés grâce aux subventions et fragilisera leur capacité à donner des services dans leur communauté. Plus encore, le gel imposé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale à un programme d'intégration au travail des personnes handicapées aura pour effet de stopper toute nouvelle aide à la création d'emplois pour cette autre clientèle démunie. Le gouvernement répète ad nauseam qu'il ne touchera pas aux personnes plus vulnérables. Il a aboli des centaines de postes. Il coupe maintenant des budgets d'intégration à l'emploi pour des personnes à statut précaire. Il agit à l'encontre de ce qu'il prétend. C'est la plus grande menterie de l'automne, a décrié mercredi Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire. Ces nouvelles coupes surviennent quelques jours après que le gouvernement Couillard a dû faire marche arrière après le tollé soulevé par des compressions qui devaient toucher notamment les personnes atteintes de déficience intellectuelle et les aînés. Des dizaines d'entreprises d'économie sociale ont été informées cet été par les CDEC de la région de Montréal, ce sont les corporations de développement économique et communautaire, que les employés qu'elles embauchent grâce au programme subvention salariale ne jouiraient plus que de 30 semaines d'aide à l'emploi. À l'origine, ce programme garantissait le versement de 100 % du salaire d'un employé la première année pendant 52 semaines et 60 % l'année suivante pendant 30 semaines. Québec limite désormais sa subvention à 100 % pour 30 semaines pour une seule année. Le gouvernement applique le même traitement au secteur social qu'au secteur privé. C'est aberrant de dire Françoise David. Au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, on a confirmé que la politique d'aide à l'emploi pour les entreprises d'économie sociale avait été revue pour des raisons d'efficience. On a fait des évaluations. Quand on a évalué, dans un souci d'efficience, pas dans un souci d'économie, c'est dans cette optique qu'on a analysé le problème, a fait valoir Julie White, l'attachée de presse du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais. Cette dernière a ajouté que les entreprises d'économie sociale bénéficieront de 30 semaines d'aide à l'emploi comme l'ensemble des entreprises qui participent au programme de subvention. Elles toucheront toutefois une aide équivalente à 100 % du salaire plutôt que 50 % comme c'est le cas pour le secteur privé. Des représentants de divers organismes ont confirmé que ces coupes viendront grandement fragiliser leurs activités en leur retirant le principal levier économique dont ils disposaient pour pérenniser des emplois et démarrer de nouvelles activités. Dans le seul secteur du plateau Mont-Royal et du Centre-Sud, au moins 38 emplois créés l'an dernier ne bénéficieront d'aucune subvention pour l'année suivante. Parmi eux, le Centre Paul Roulant, un organisme communautaire qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et à briser l'isolement social des personnes démunies au centre de la ville de Montréal. Le retrait de la subvention frappera doublement l'organisme, puisque le POS voué à disparaître privera l'organisme de la personne affectée à la recherche d'autofinancement, a fait valoir Pierre Linné, directeur du Centre Paul Roulant. Ce poste avait été un facteur de croissance pour nous, dit-il. Plusieurs autres organismes, dont l'organisme FEM International, qui offre de l'emploi aux femmes immigrantes, et des organismes culturels et communautaires comme le Théâtre Parenthèse, le Cirque Orpis, le regroupement de photographes Le Cabinet et l'organisme Execo, voient l'inclusion des personnes marginalisées, perdront une partie de leurs subventions. Selon les chiffres obtenus du ministère de l'Emploi, pas moins de 568 personnes ont été embauchées grâce à ce programme d'aide à l'emploi en 2012-2013. Ce dernier affirme toutefois que les sommes retranchées pour des raisons d'efficience ne dépasseront pas 650 000 $ pour l'ensemble du territoire québécois. Ce sont des économies de bout de chandelle pour un gouvernement qui n'a aucune autre vision de l'emploi en dehors des mines, tonne Françoise David. Pour les personnes handicapées, le gel des budgets dédiés aux contrats d'intégration au travail revient à empêcher la création de tout nouvel emploi pour les personnes handicapées, affirme pour sa part Luc Labbé, porte-parole de la coalition Large Emploi Personnes Handicapées, organisme parapluie qui vient de déposer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. C'est une atteinte directe au droit au travail, plaide-t-il. À la lumière de ce gel, toutes les nouvelles demandes de subventions à l'emploi pour les personnes handicapées ne seront plus traitées. Seules les subventions aux emplois déjà existants seront maintenues, déclare la coalition. On avait des choix difficiles à faire. Malgré cela, on a décidé de maintenir les contrats d'intégration parce que c'est important pour nous, a fait valoir la porte-parole du ministre qui affirme que le budget de 35,6 millions restera inchangé pour 2014-2015. On le voit, c'est plutôt triste puisque le secteur communautaire, particulièrement en période de coupure, joue un grand rôle dans la société.
Elle est plus forte que toi, la crise.
Tcha!
On est lourd de cerne, mais la foule se glisse dans un couloir de métro. Les yeux rivés sur l'aiguille, regardez passer le temps qui se faufile comme une anguille et ne cesse de te mettre dans le vent. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Ah bah tu crevais le dos courbé par ton horaire. Tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Grincement du métro, le train est à l'approche. Et c'est le mouvement de foule qui te noie comme là où tu cours sans y penser. Le temps décompté, chaque minute de gagner comme un chèque bien encaissé. Tu finiras par lâcher prise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras par lâcher prise dans ton flirt avec la crise. Envolé d'un courant d'air, écrasé la gueule par terre. On est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs. Dans sa multinationale, blindé, mondialisé. L'homme actif de nombreuses années, c'est le technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires, qui a écrasé nos vendeurs de réverbères, qui fait du gringard sa secrétaire et qui se retient pendant la prière,
qui pratiquera son art de la maîtrise,
de la maîtrise.
Comment profiter de la crise,
de la crise.
Comment profiter des petites entreprises,
petites entreprises
et de son flirt avec la crise.
Elle est plus forte que toi, la crise.
La 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 la.
Elle est plus forte que toi,
la crise.
La 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 la.
Elle est plus forte que toi,
la crise.
La 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 la.
Elle est plus forte que toi, la crise.
Le groupe trio qui chantait pour un flirt avec la crise. Ce qui nous amène... Tiens, on va rester gay. Avez-vous une bonne nouvelle pour moi?
Oui, le pétrole baisse. Ah. Oh, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Enfin, oh, ce cher pétrole qui mène le monde. Hein. Eh bien, les variations de son prix font frémir la planète tout entière, hein, c'est clair. Eh bien, dollars et pétrole sont profondément liés. Et si le prix du pétrole est passé sous les 100 dollars, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, c'est semble-t-il largement à cause de la hausse du billet vert. Ça a intéressé Nabil Bourassi, qui est un journaliste de La Tribune et qui a interviewé Olivier Resch. Alors, Olivier
La Tribune qui, je le rappelle, n'est pas le journal de Sherbrooke.
Non. C'est... Bon, je suis désolé de ne pas l'avoir précisé. Je vous promets que la prochaine fois, je le ferai. Donc, Olivier Resch, c'est le responsable de la recherche énergie chez Beyond Ratings, qui est une société d'analyse. Et il répond donc aux questions de Nabil Bourassi. Je vous lis cette interview. Question. Le baril de Brent coté à New York est passé sous le seuil de 90 dollars pour la première fois depuis un an et demi. Comment analysez-vous cette situation ? Réponse. On a déjà vu cette situation au deuxième trimestre 2012 lorsque le baril était aux alentours de 90 dollars. Pour ce qui est de la situation actuelle, d'une part, nous sommes dans une période où chaque jour l'économie mondiale montre des signes de faiblesse. D'autre part, la production est toujours soutenue en grande partie du fait de la production de pétrole de schiste aux États-Unis qui continue à se développer. C'est la conjonction de ces deux éléments qui explique en partie cette faiblesse du prix du pétrole. On voit bien le paradoxe, hein, parce que si ça continue, bah, ça va devenir un petit peu délicat d'exploiter du pétrole de schiste. Ça va faire remonter les prix et puis le truc recommence. Bon, c'est effrayant. En partie seulement parce que, en réalité, la moitié de la baisse du cours du pétrole s'explique par un facteur monétaire, à savoir la hausse du dollar. Le cours du pétrole a nettement moins baissé dans les autres monnaies parce que compensé par la hausse du dollar. Question. Vous voulez dire que la zone dollar profite davantage de la baisse du cours du Brent ? Réponse, oui, mais de la même manière que la zone dollar avait davantage souffert d'un dollar faible et d'un prix de baril élevé. Question. Compte tenu des perspectives de croissance au niveau mondial et des données en termes de production, peut-on imaginer que la situation va se poursuivre sur le long terme ? Réponse, tout dépend de ce qu'on appelle le long terme. À l'horizon d'un an, nous sommes dans une configuration qui ne devrait pas être remise en cause. L'économie devrait rester faible, il n'y a pas de signe de ralentissement de la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Question. Il y a aussi le facteur monétaire qui devrait s'aggraver si on en croit les perspectives des marchés qui s'attendent à une parité quasi égale entre euro et dollar d'ici 2017. Réponse. Je fais partie de ceux qui pensent que non. Je ne pense pas que le dollar soit surévalué de 20 à 25%, du moins pas sur une tendance longue de plusieurs années. D'ailleurs, il faut s'attendre à une piqûre de rappel début 2015 avec un nouvel épisode sur le plafond de la dette américaine. Un début de psychodrame, comme à chaque fois, qui viendra surtout rappeler que l'endettement est davantage du côté américain que du côté européen. On rencontre encore un des thèmes qu'on aborde constamment ici, la difficulté de l'analyse économique, parce qu'on peut vraiment bâtir un raisonnement sur le fait que l'euro et le dollar vont se retrouver à égalité dans 6 mois, et le contraire absolu avec la même rigueur et des arguments tout aussi solides. Bref, comment avoir une pensée juste ?
C'est ce qui fait qu'on ne peut pas se fier à un économiste, jamais.
Oui, oui. Question. Y a-t-il des inconnus dans vos perspectives ? Je ne l'ai pas fait exprès. Réponse. Autant je suis assez confiant sur les variables fondamentales qui régissent le prix du pétrole, que je viens de décrire, autant je ne peux exclure une nouvelle crise financière qui remettrait complètement en cause ces hypothèses. Je suis assez d'accord avec ce point de vue parce que, pour moi, le problème viendra plutôt de la crise financière. Question. Vous pensez que le cours du pétrole a encore beaucoup de marge pour poursuivre sa baisse ? Réponse. Toute chose égale par ailleurs, c'était merveilleuse cette formule.
Oui,
à la parité euro-dollar actuelle, nous sommes proches d'un point bas. Mais je ne peux pas préjuger du climat cet hiver. Si nous connaissons le même épisode d'un hiver très doux comme l'année dernière, on parle de la France, là, c'est pour
oui.
ça. Hein.
Profondément injuste.
C'est, oui, excusez-moi. Cela risque effectivement, je devrais censurer les articles, effectivement de peser sur les cours. Question. Y a-t-il un seuil au-dessous duquel l'industrie du pétrole de schiste américain devient vulnérable ? Ah, on entre dans les vraies questions. Réponse. C'est effectivement une des questions du moment. La spectaculaire production du pétrole de schiste depuis 4 ans aux États-Unis est probablement l'élément disruptif qui a le plus modifié les trajectoires de long terme et cela devrait se poursuivre à l'horizon 2016-2017. Maintenant, pour bien comprendre les hypothèses sur ce secteur, il faut avoir en tête deux éléments. Il est vrai qu'on peut estimer que le coût de revient du pétrole de schiste se situe aux alentours de 80 à 90 dollars. À cet égard, on peut estimer qu'au cours actuel, les compagnies américaines sont à quelques encablures du seuil de non-rentabilité. Nous, on l'avait estimé à 70 dollars, donc c'est vraiment dans ces fourchettes-là. Mais le vrai moteur de la production de pétrole de schiste aux États-Unis, ce sont les taux d'intérêt réels très faibles, voire négatifs. C'est l'apport de capitaux quasi gratuits qui alimente cette industrie. une hausse des taux d'intérêt réels serait de nature à changer la donne et le prix d'équilibre serait revu à la hausse, ce qui ne serait pas sans poser de problème aux industriels du pétrole de schiste.
Et il faut dire ici, pour faire une mise en situation canadienne, que les sables bitumineux sont dans le même état. Il s'agit d'un pétrole plus cher à aller chercher, peut-être moins que le gaz de schiste, mais quand même plus cher que le pétrole conventionnel. Alors, ce qui est vrai pour le pétrole des gaz de schiste est vrai pour les sables bitumineux canadiens.
Tout à fait. Dernière question. Face à cette baisse du cours du Brent, on peut être surpris que l'OPEP n'agisse pas pour réduire sa production et ainsi maintenir des prix plus élevés. Les grands pays producteurs de pétrole ne sont-ils pas en train de jouer le pétrole à la baisse pour déstabiliser le pétrole de schiste américain ? Dernière réponse, et je trouve que cette question elle est très pertinente. Une phase de test de l'effet prix sur l'exploitation du pétrole de schiste aux États-Unis n'est pas exclue, mais ce serait à mon sens, du point de vue de l'OPEP, assez risqué. Les industriels du pétrole de schiste ne dégagent pas de cash flow pour le moment et les variables clés sont les flux de capitaux et les taux d'intérêt réels négatifs.
Quelques nouvelles brèves en commençant. Oui, alors le Graal de l'économie a été remis à Stockholm par... C'est Oslo ou Stockholm qui remet... Généralement, c'est un ou l'autre pour les prix Nobel, enfin.
Oui, vous savez pourquoi? C'est parce qu'autrefois, la Norvège et la Suède ne formaient qu'un seul pays, donc la paix...
Un royaume.
Oui, pays, c'est un royaume aussi.
Alors, donc le prix Nobel d'économie a été remis à Jean Tirole, qui est un économiste français, cofondateur de l'École de Toulouse. Jean Tirole est un spécialiste de la régulation des marchés oligopolistiques, c'est-à-dire un marché comme on a 3 ou 4 grandes entreprises qui contrôlent. Alors, comment on peut faire pour réglementer ces activités, pour que les prix n'explosent pas, pour que les nouveaux acteurs puissent intervenir, pour que, bon, parlez-en au gouvernement Harper qui essaie de faire entrer un nouvel acteur dans la téléphonie cellulaire et qui n'y arrive pas depuis 4 ans. Eh bien, peut-être que M. Tirole pourrait les aider. Voilà. Alors, félicitations à Jean Tirole.
Et en tout cas, il est conseiller du gouvernement pour les affaires économiques. Espérons que ça servira à quelque chose. Vous avez vu que la léthargie en matière d'emploi se poursuit au Québec, hein, et même si on a ajouté 6 500 emplois à temps partiel, il ne faut pas que ça fasse illusion. Il n'y a pas d'amélioration palpable du marché du travail comme on en observe partout ailleurs au pays. C'est un peu embêtant.
Bonne nouvelle en terminant pour cette première demi-heure. Le taux de chômage au Canada est le plus bas connu depuis 2008. Mais attention, on est à l'intérieur de la fourchette d'erreur et je vous rappelle qu'être chômeur, c'est très compliqué. Il faut répondre plein de critères. Sans ça, on est quelqu'un d'inactif et pas un chômeur. Vous l'entendez, l'indicatif signale déjà la fin de cette première demi-heure. On fait une pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Seconde demi-heure et je commence immédiatement en vous parlant d'un texte de Manon Cornelier du Devoir, un texte qui a été publié le 11 octobre 2014 où Manon Cornelier, qui est quand même chroniqueur depuis longtemps au Devoir, s'interroge sur les politiques de coupures budgétaires qui sont en place tant à Québec. Vous allez me dire que je ne parle que de ça ce matin et je réalise que c'est probablement vrai, mais c'est probablement très important aussi. Alors, Manon Cornelier s'interroge sur les pratiques de coupures à Ottawa et à Québec. Et le titre de son article nous donne le ton. Ça s'appelle « Le prix d'une obsession ». Le gouvernement du Québec a décidé de s'attaquer au déficit sans faire de quartier et il veut aller vite. Cela a un prix, comme on le voit à Ottawa depuis 4 ans. Le gouvernement conservateur a fait du retour à l'équilibre budgétaire avant les prochaines élections une idée fixe. Il est sur le point de remporter son pari. Cette semaine, le ministre des Finances a rendu public le bilan financier du gouvernement fédéral pour l'année 2013-2014. Le déficit au 31 mars dernier était de seulement 5,2 milliards, soit 13,2 milliards de moins que prévu dans le budget 2014. Comment cela est-il possible? Les revenus ont augmenté au-delà des espérances du gouvernement, c'est vrai, mais les dépenses ont aussi chuté. Les compressions font leur œuvre et comme les transferts aux particuliers et aux provinces ne sont pas touchés, ce sont les dépenses de programme qui écopent. Selon un rapport récent du directeur parlementaire du budget, les dépenses de fonctionnement du gouvernement ont atteint un creux historique. l'État fédéral rétrécit. En chiffres, cela ressemble à ceci. Le directeur parlementaire du budget prévoit que les mesures d'austérité prises depuis 2010 et surtout 2012 généreront des économies récurrentes totalisant 14,6 milliards cette année. À ce rythme, Ottawa pourrait afficher un surplus de 5 milliards d'ici le 1er avril 2015, estiment les économistes de la banque TD dans un rapport rendu public cette semaine. Si Ottawa ne change pas son cadre fiscal ni ses dépenses, il pourrait cumuler jusqu'à 56 milliards de surplus d'ici 2018-2019. Pendant ce temps, note le directeur parlementaire du budget dans son dernier rapport sur la viabilité financière du gouvernement fédéral, les provinces vont en arracher pour faire face aux conséquences financières du vieillissement de la population. Le rouleau compresseur est donc passé et on en voit de plus en plus les effets. Le gouvernement résiste à présenter un portrait d'ensemble de l'impact de ces compressions sur les politiques, programmes et services aux citoyens. Mais il y en a un. On le découvre à la pièce, cependant. Cette semaine, c'était le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, qui nous apprenait que les mesures budgétaires ont eu des répercussions sur les communautés de langues officielles. On a, entre autres, coupé les fonds qui leur permettaient de participer à des activités de recrutement des immigrants. La commissaire à l'environnement et au développement durable, Julie Gelfand, a pour sa part montré mardi comment le manque de ressources empêche la garde côtière et le service hydrographique du Canada de se préparer adéquatement à l'accroissement du trafic maritime dans l'Arctique. L'enquêteur correctionnel Howard Sapers, qui publiait son rapport annuel mercredi, a lui aussi noté que les pressions que subit le Service correctionnel Canada découlent en partie de ses moyens limités pour faire face à l'afflux de détenus, à la complexité des cas et aux besoins en matière de réinsertion. L'OCDE, de son côté, a publié cette semaine un rapport sur l'aide publique au développement. De tous les pays recensés, il n'y a que le Portugal qui est fait pire que le Canada. Le budget canadien de l'aide publique au développement a baissé de 11,5% entre 2012 et 2013. Alléchés par les surplus à venir, les conservateurs, eux, font déjà des annonces très ciblées et potentiellement rentables sur le plan électoral. À la mi-septembre, on a dévoilé la réduction des cotisations à l'assurance-emploi pour les petites entreprises, une mesure, disait-on, destinée à encourager la création d'emplois. Dans un rapport publié jeudi, le directeur parlementaire du budget démontre qu'au final, cela voudra dire, en termes nets, 200 emplois de plus en 2015 et 600 en 2016. Pour cela, le gouvernement dépensera 550 millions sur 2 ans, soit 550 000 pour chaque emploi supplémentaire. Par contre, 2 000 emplois seront perdus en 2015 et 8 000 en 2016 à cause du gel des cotisations pour les autres entreprises, le taux de cotisation étant plus élevé que nécessaire pour assurer l'équilibre du compte de l'assurance-emploi. Mais avec ce taux, le gouvernement s'offre des revenus supplémentaires et donc un surplus gonflé au détriment des cotisants et des chômeurs. Cette semaine, le premier ministre Harper a lui-même annoncé l'augmentation du crédit pour l'activité physique des enfants. Une étude publiée l'an dernier montrait que ce crédit profitait d'abord aux familles plus aisées, capables de payer les frais d'inscription de leurs enfants. Et même là, ce n'était pas le Pérou. Tout ce qu'elles peuvent économiser est 15 % des dépenses engagées jusqu'à concurrence de 500 $. Le gouvernement va maintenant faire passer le seuil des dépenses admissibles à 1 000 $, ce qui veut dire un remboursement d'au plus 150 $. Pour le Trésor public, en revanche, cela risque de faire passer la facture de 115 millions à 230 millions par année. Pour réduire la taille de l'État autant qu'on peut, on rogne partout et avec les économies réalisées, on offre des bonbons électoraux qui, si on les accepte, grugeront la marge de manœuvre du gouvernement et le menotteront pour les années à venir. Que j'aime Manon Cornelier. Le temps passe. Quel est votre dernier sujet, Eric?
Oui, alors mon dernier sujet, c'est l'éternel problème de la relation entre le politique et l'économique, ou si vous préférez une paraphrase, le rapport entre le réel et la théorie, c'est plus général et tout aussi sérieux. Alors au moins, même si l'économie, on l'a dit 2000 fois, est loin d'être une science exacte, Bah, quand même, c'est un des rares outils d'analyse dont on dispose hein, pour fonder une décision.
Oui, c'est très, très bon pour dire, après le fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Oui, oui, oui. Alors, le moins qu'on puisse faire, bah, je suis d'accord avec vous, hein, c'est de conserver un esprit critique hein, dans cette situation. Alors, ça a intéressé. J'ai trouvé une publication un peu discrète qui s'appelle Libres Échanges, qui est publiée par le département d'économie de l'Université Laval et dans laquelle s'exprime un professeur de cette université, qui est également économiste, Monsieur Gérard Bélanger. Et je vous lis donc son point de vue. Un thème récurrent dans les écrits en politique de santé est la recommandation de fonder les décisions sur des données probantes. L'Agence de la santé publique du Canada en donne une description. La prise de décision fondée sur des données probantes se réfère à une approche dans laquelle un ensemble d'informations est soumis à un large processus d'examen critique. C'est merveilleux comme formule. Bon. Vous allez me dire que ce n'est pas scientifique, que ce n'est pas assez précis. Non, vous n'allez jamais me dire ça. Cela signifie que toutes les décisions doivent s'appuyer sur les meilleures preuves et les raisonnements les plus justes qui soient. Bien. Les données probantes, soutenues par un raisonnement solide, et les principes qui sous-tendent les évaluations répondent à la question « Pourquoi cette décision ?» Cette approche ne peut que soulever l'enthousiasme des économistes. Pourtant, c'est des gens pas souvent enthousiastes. La branche descriptive ou normative de l'économique est très développée. Elle s'intéresse à l'évaluation de la rentabilité globale de différents projets ou actions. L'approche favorise donc la demande pour le travail des économistes, ce qui devrait réjouir un professeur d'économie. Deux lectures récentes ont diminué mon emballement pour l'approche de la prise de décision basée sur des données probantes en me questionnant sur ses possibles biais idéologiques. Ah, là, je sens que ça vous intéresse. La première est le livre de William Easterly au titre évocateur « La tyrannie des experts », économiste, dictateur et les droits oubliés des pauvres. La seconde réfère au discours de l'ancien maire de New York, Mike Bloomberg, à la récente collation des grades à Harvard. Il illustre un biais des personnes instruites. Dans la course présidentielle de 2012, selon les données de la Commission électorale fédérale, 96% de toutes les contributions de campagne de professeurs et employés de l'Ivy League sont allées à Barack Obama.
Répétons ici que l'Ivy League, ce sont les vieilles universités du Nord-Est américain les plus connues. On les appelle Ivy League parce qu'ils poussent plein de lierre sur des bâtiments magnifiques. Ça nous donne Harvard, notamment. Désolé de l'interruption.
Oh, c'est merveilleux. Il y avait plus de désaccord entre l'ancien politburo soviétique qu'il n'y en a entre les donateurs de l'Ivy League. Hein, comme quoi le lierre peut cacher bien des murailles. Cette statistique devrait nous donner à réfléchir. Et je le dis comme quelqu'un qui a approuvé le président Obama pour sa réélection, car je vous le dis, aucun parti n'a le monopole de la vérité ou de Dieu à ses côtés. Lorsque 96% des donateurs de l'Ivy League préfèrent un candidat à l'autre, vous devez vous demander si les élèves sont exposés à la diversité des points de vue et qu'une grande université doit offrir. Où sont les données probantes ? Même si l'expression « données probantes » suscite un certain enthousiasme, il faut néanmoins se questionner sur son existence. À ce sujet, les détenteurs du prix Nobel des sciences économiques de 1974 et 2013 fournissent des arguments pour soulever de sérieux doutes vu leurs propositions contradictoires. En 1974, Gunnar Myrdal et Friedrich Hayek reçurent le prix Nobel. Leurs écrits ne pouvaient être plus à l'opposé. Myrdal, comme les autres spécialistes du développement économique de son époque, proposait la centralisation et la planification, en d'autres termes, une approche descendante et une conception volontaire des institutions et des mécanismes. De son côté, Hayek prône la décentralisation avec une approche ascendante et des solutions spontanées par un processus d'apprentissage par essai et erreur. Voilà deux directions diamétralement opposées. J'ai envie d'éclater de rire, mais je ne le ferai pas. Deux des trois récipiendaires du prix Nobel de 2013, Eugène Fama et Robert Shiller, sont en désaccord depuis plus de 30 ans concernant « The Great Divide Over Market Efficiency ». Sans vouloir apprécier le contenu de ce débat, on peut noter le caractère acrimonieux qu'il peut revêtir avec ce passage d'une longue entrevue d'un participant à la télévision suédoise quelques jours avant la remise du prix. Deux points. Je ne devrais pas essayer de psychanalyser Eugène Fama, mais je sais qu'il est convaincu d'une philosophie libertaire, enseignant à l'Université de Chicago où Milton Friedman a vécu. Cela doit affecter votre façon de penser d'une certaine manière, qu'il croit vraiment dans les marchés. Je pense qu'il a peut-être une dissonance cognitive. Ah, c'est joli comme expression. Vous avez peut-être une dissonance cognitive. Mm-hmm. Ouais. Alors que faites-vous si vous vivez à l'Université de Chicago ? C'est comme si, étant un prêtre catholique et avec la découverte que Dieu n'existe pas ou quelque chose d'autre, vous ne pouvez pas faire face à cela. Vous avez à rationaliser de toute façon. Que montrent ces deux exemples sur le bien fondé des données probantes ? Un universitaire serait malvenu à s'opposer à l'utilisation des connaissances dans la détermination des politiques. Il demeure toutefois pertinent de s'interroger si les experts, comme beaucoup de groupes dans la société, ne s'arrogent pas trop d'importance en surestimant leurs capacités. L'expression « données probantes » laisse peu de place aux limites des connaissances. Pourtant, les résultats des recherches ressemblent étrangement aux jeux de notre enfance des serpents et échelles. Les résultats récents sur les dangers d'une sous-consommation du sel et des résultats contradictoires sur l'utilité des mammographies dans le dépistage du cancer en sont une illustration. Ça, c'est quand l'économie rejoint la réalité. Mm-hmm. Pour l'économiste, le concept de données probantes réfère principalement aux études de rentabilité permettant de connaître si les déficits globaux attendus d'une mesure sont supérieurs à leurs coûts attendus. Ce cadre en apparence simple renferme maintes difficultés, comme l'absence d'un certain consensus pour le taux d'actualisation à utiliser et les problèmes de valoriser les intangibles. Quel est le coût de la diminution de la liberté des citoyens qu'implique une contrainte réglementaire ? Ne serait-il pas pertinent d'entreprendre une analyse de rentabilité, des études de rentabilité ? Il est pas mal ce point de vue, parce qu'il soulève des vraies questions, tout en se moquant un peu de soi-même en tant qu'économiste. Et je trouve que c'est une énième occasion de se dire quelle merveille que l'économie, c'est une science qui a une utilité majeure, celle de donner du travail aux économistes.
Oui, Woody Allen a dit un jour, je suis contre la peine de mort, sauf pour les architectes, d'où je conclus qu'il ne connaît aucun économiste.
Working my
C'était Aloe Black. Si vous vous êtes promené récemment sur le plateau Mont-Royal, vous avez peut-être constaté que la prochaine génération de travailleurs français y est rendue. Voilà. Il y a énormément de... Pas trop, pas assez. Il y a beaucoup, beaucoup de ressortissants français qui vivent sur le plateau. Pourquoi? On a l'impression en France que ça va mal. Disons-le franchement, il y a une morosité ambiante. Il y a...
Et
la France se cherche des modèles et se demande si le Québec et le Canada ne pourraient pas être un de ces modèles. Pour Éric Desrosiers, qui signe un texte aujourd'hui dans Le Devoir à ce sujet-là, et c'est le titre de son article, c'est peut-être un idéal économique illusoire. La France a le moral dans les talons. Depuis plusieurs années déjà, ses finances publiques semblent irrécupérables. Son économie apparaît désespérément en panne et on y cherche avidement des modèles dont on pourrait s'inspirer pour sortir du marasme. Parmi les pays que ses propres experts lui servent constamment en exemple, on trouve les pays de l'Europe du Nord, bien sûr, mais aussi le Canada. Dans ce dernier cas, il y a manifestement un malentendu, conclut Stéphane Paquin et Jean-Patrick Brady du groupe d'études sur les relations internationales du Québec, le GIRIC, de l'École d'administration publique du Québec, l'ENAP, dans une note de recherche d'une trentaine de pages intitulée « Le mirage canadien et québécois de la France ». La France n'est pas aussi mauvaise que certains se plaisent à le répéter, a expliqué dans un entretien téléphonique au Devoir le politologue Stéphane Paquin, après avoir comparé plus d'une vingtaine d'indicateurs de performance économique et sociale en France, au Canada et au Québec. Mais surtout, les raisons des succès économiques du Canada ne sont pas ceux que l'on dit en France. À en croire plusieurs experts français, les politiques d'assainissement des finances publiques menées durant les années 90 par le gouvernement fédéral de Jean Chrétien ont lancé au Canada une période de prospérité sans précédent. Or, fait valoir l'étude de l'ENAP, les surplus budgétaires et le succès économique canadien ont surtout découlé de l'introduction de la taxe sur les produits et services et de la signature de l'accord de libre-échange canado-américain à la fin des années 80 par le prédécesseur de Jean Chrétien, Brian Mulroney, puis du boom des prix du pétrole albertain à compter des années 2000. Il ne s'agit pas de nier l'importance des politiques d'assainissement du gouvernement Chrétien, seulement de préciser qu'elles auraient été loin de suffire, observe Stéphane Paquin. Malheureusement pour la France, elle pourrait difficilement reproduire les trois facteurs qui ont été les plus déterminants au Canada, puisqu'elle n'a pas la chance de disposer de réserves pétrolières, qu'elle prélève déjà une taxe à la valeur ajoutée relativement élevée et qu'elle ne peut pas espérer signer de nouvelles ententes commerciales qui auraient, pour son économie, l'impact qu'a eu le traité canado-américain pour le Canada. Dans leur engouement pour le Canada, les experts français oublient un peu vite que le pays est constitué de provinces aux réalités bien différentes. Ne disposant pas, elles non plus, de la manne pétrolière albertaine, les deux plus importantes, l'Ontario et le Québec, connaissent elles aussi d'importants problèmes de croissance et de finances publiques, rappelle l'étude. À parité de pouvoir d'achat, le Québec affiche ainsi un produit intérieur brut par habitant, 36 216 $ américains, légèrement inférieur à celui de la France, qui est de 37 134 $, et sensiblement plus bas que la moyenne canadienne, qui, elle, est à 43 000 $ à raison d'un taux de croissance moyen de 1,3 par année de 1981 à 2011, soit un peu moins que le Canada à 1,38, mais presque la même chose qu'en France à 1,29. En matière de dette publique, celle du Canada s'élevait à 83 % du produit intérieur brut en 2009 contre 89 en France et 88 % au Québec lorsqu'on inclut sa part de la dette fédérale calculée en fonction de son poids économique dans le pays. Le Canada et le Québec font par contre beaucoup mieux que la France en matière notamment d'emploi et de performance scolaire. La France leur rend la monnaie de sa pièce en matière de fécondité et de productivité, bien que dans ce dernier cas, la plupart des experts tendent à y voir plutôt le symptôme d'un faible taux d'emploi des travailleurs plus jeunes et plus vieux. Fait tout de même à noter, le taux d'emploi des 25 à 54 ans en France, 80,7, est très près de celui du Québec, 81,7, et du Canada, 81,4, et nettement moins meilleur, et nettement meilleur, oui, que celui des États-Unis, qui est à 75,9. En matière d'inégalité de revenus, la France fait un peu mieux que le Québec, qui fait mieux que le Canada. En somme, la réalité est plus nuancée qu'on le dit, conclut Stéphane Paquin, qui a récemment co-dirigé un ouvrage comparant cette fois le Québec avec les pays scandinaves. S'il n'est pas étonnant que la France ne soit plus le modèle qu'elle a déjà été au Canada et au Québec dans les années 60 et 70, la France ferait bien mieux quant à elle de ne pas essayer de copier le Canada et de regarder plutôt du côté des pays d'Europe du Nord, comme la Suède.
Bon, ça, vous avez douché tous mes espoirs, François.
Et voilà, dans les idées reçues. Déjà le moment des dernières nouvelles brèves de cette émission. Je commence immédiatement avec des nouvelles sur les hydrocarbures, le pétrole. Qu'est-ce qu'une émission d'affaires économiques qui ne parlerait pas de pétrole, n'est-ce pas? D'abord, on nous apprenait cette semaine que Ottawa et Québec progressent sur la gestion des hydrocarbures. En fait, les deux juridictions se prépareraient à adopter une espèce de loi miroir, c'est-à-dire une loi au même effet au fédéral et au provincial, ce qui ne réglait pas les chicanes de compétences, et ce qui permettrait à Québec d'exploiter plus rapidement les gisements du fond du Saint-Laurent. Toujours dans le pétrole. Mauvaise ou bonne nouvelle? Et il semblerait que le trafic pétrolier dans le golfe du Saint-Laurent est appelé à exploser. Pourquoi? Parce que la communauté économique européenne, l'Union européenne, maintenant, vous voyez des vieux réflexes. L'Union européenne, donc, avait classé le pétrole de sable bitumineux comme un pétrole sale, donc quelque chose dont on n'encourageait pas l'importation. Eh bien, ils sont revenus sur cette décision-là et on se prépare à le classer, comme tous les pétroles, pour être prêt à l'importer. Il faut dire que l'Union européenne craint énormément la situation géopolitique avec la Russie qui, semble-t-il, fait cavalier seul. Alors, on cherche de nouvelles sources et le Canada pourrait en devenir une.
En attendant qu'il soit trop cher. Bon, moi, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Le gouvernement doublera le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants et pas de... Ce n'est pas une mince somme, hein, puisque ce crédit passera de 500 à 1 000 $ à compter de l'année d'imposition 2014.
15% de 500 à 1 000 $ pour être précis.
Bon, oui, ça, évidemment, vous serez toujours avec votre calculette à corriger mes chiffres, mais c'est une bonne chose. En tout cas, vous savez qu'on y a droit avec le hockey, le soccer, enfin le football, les leçons de golf aussi et l'équitation. Bon, je me demande si tout ça est vraiment équitable. Enfin, regardez si vous êtes admissible.
Oui, en fait, pour les courses de yacht de vos enfants, sachez que tout le monde a maintenant droit au crédit d'impôt pour l'activité sportive. C'est quand même fascinant. Tiens, les crimes environnementaux. Il y a une agence de l'ONU qui a conclu cette semaine que les crimes environnementaux rapporteraient entre 77 et 235 milliards de dollars à leurs auteurs et que ce type de crime-là maintenant a dépassé le trafic de drogue à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on entend par crimes environnementaux? En fait, ce sont ceux qui abusent de l'environnement pour faire des profits faciles au détriment de leur communauté, voire de l'humanité. On parle notamment de déboisement sauvage, d'exploitation occulte de minerais, évidemment de chasse à des animaux en voie d'extinction ou alors de pêche au-delà de ce qui est permis. Voilà.
Des nouvelles du transport aérien. Figurez-vous qu'une compagnie américaine poursuit l'aéroport d'Ottawa. Alors pourquoi? C'est la compagnie States Airlines, je ne sais pas si vous l'avez déjà prise, qui a formulé cette plainte à suite de deux incidents parce que ces avions avaient raté leur atterrissage à l'aéroport McDonald's. Eh bien, pourquoi? Parce que les pistes ne répondaient pas aux normes canadiennes. Donc, ils demandent 12 millions de dollars. Attention à votre prochain atterrissage à Ottawa.
Pour une fois qu'on critique la voirie en Ontario, moi, je souris. Voilà, je le dis. Jusqu'à tout récemment, il y avait une grande lutte entre Toyota et GM pour savoir qui serait le premier et le deuxième fabricant mondial de voitures. Toyota, encore cette année, va gagner. Et GM ne sera pas deuxième puisque Volkswagen va vendre plus de voitures que GM, en fait, pour plus cher que GM dans les prochains mois. Donc, c'est Volkswagen qui est maintenant le numéro 2 dans l'automobile.
C'est GM qui fait votre voiture préférée, la Camaro, c'est pas ça?
Non, la Camaro, je l'ai.
Savez-vous que vous pouvez créer vous-même un sondage, cher François? Ça vous intéresse peut-être, si vous voulez mesurer votre popularité auprès des auditeurs. Eh bien, c'est accessible à partir du moment où vous avez un compte Google. Eh bien, voilà, c'est très simple. Hein, vous posez deux questions, vous insérez une image. Et puis, vous pouvez lancer le sondage. Vous serez certainement surpris du résultat, en bien, évidemment.
Deux petites nouvelles rapides dans l'environnement. En France, d'abord, on va interdire les sacs plastiques jetables du genre qu'on utilise.
Et les couverts en plastique.
Et les couverts en plastique. Mais les couverts en plastique, c'est à compter de 2019 ou 2020, 2017. Les sacs, ça va être à compter de 2016. Alors, en France, si vous faites des courses, n'essayez pas d'acheter un sac. C'est illégal. Voilà, si votre sac ne se décompose pas tout seul dans le compost, il n'y a rien à faire. Vous n'y aurez pas de droit. D'autres nouvelles écologiques dont je voulais vous parler, c'est David Suzuki, qui est en tournée ces temps-ci à travers le Canada, une grande tournée de sensibilisation. David Suzuki, qui nous suggère rien de moins que d'inclure dans la Constitution canadienne un droit à de l'air pur et de l'eau claire.
Une triste réalité de la malbouffe. Manger sain coûte trois fois plus cher. Je suis terriblement déçu.
Angoissant. Vous l'entendez, l'indicatif musical nous indique que cette émission est déjà terminée. C'est dommage, on avait tant de choses à vous dire. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite à écouter les rediffusions. On remercie aussi Kamal Salifou qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux de cette émission. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, Eric.
Au revoir, François.